Crayon Libre sur Cause Commune. L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge. Hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur Cause Commune. L'écoute est possible sur la bande FM 93.fm en DAB+, en streaming. Merci de nous écouter. Merci aussi de nous relayer, de commenter. C'est votre manière de nous encourager, de nous confirmer que cette émission Rayon Libre tient un rôle dans votre compréhension du monde du vélo. Et cette émission aujourd'hui n'est pas en direct. Alors cap ou pas cap, vous vous souvenez de ces défis qu'on se lançait dans les cours de récré? Non, pas le chiche ou vérité, juste le cap ou pas cap. Juste pour voir, pour vibrer, pour s'amuser, à se faire peur, pour être fier de soi, fier des autres, pour se moquer aussi. Oh non, il est pas cap. Cap ou pas cap de sauter du muret? Cap ou pas cap de parler à celle ou celui qui nous impressionne? Cap ou pas cap de rentrer plus tard que prévu? Et puis on grandit, on remplace ce cap ou pas cap par est-ce bien raisonnable? Ou le c'est parce que je ne suis pas cap, c'est juste que là, bah vraiment je peux pas. On troque le défi contre le dossier, l'envie contre l'agenda et les contraintes que l'on s'impose. Mais on peut choisir de rester un enfant, un peu. Cap ou pas cap d'aller au bureau à vélo? Cap ou pas cap de réparer ce vélo? Cap ou pas cap de dormir une nuit dehors à côté de son vélo, etc., etc. Mon invité n'est plus un enfant. Il répond cap de relier sans moteur le cap Agulhas en Afrique du Sud au Cap Horn en Amérique du Sud en passant par le détroit de Bering. 50 000 km à vélo, à cheval, en kayak, en ski, à la nage. Là, il revient du désert de Gobi. L'hiver de la Mongolie lui offre un répit. Il est cap de recoudre ses pneus. Il est cap de pédaler sous les moins 20, moins 30 degrés Celsius. Il est cap de s'énerver sur les flics chinois. Il est cap aussi de se partir sans cause à brandir. Il est cap de pas avoir de projet humanitaire à sponsoriser. Pas de chrono à afficher. Cap de partir pour vivre, pour découvrir, pour filmer, pour raconter, pour kiffer aussi et pour râler, parce que oui, le vent, la pluie, les kilomètres, ça use. Il est cap de partir sans vouloir aller vite, il est cap de transformer chaque coup de pédale en exploit, il est cap de s'autoriser la lenteur, il est pas cap de faire croire que tout est toujours inspirant. Dans un monde qui court, il pédale. Dans un monde qui calcule, il avance. Et dans un monde qui justifie, il part. Son projet s'appelle De Cap en Cap, Beyond the Capes. Moi, je l'aurais appelé le chiche des capes, mais je ne suis pas chiche de faire ce qu'il entreprend. Alors je suis ravi de voyager 30 minutes avec lui et avec vous. Bonjour Yann, merci beaucoup d'être au micro avec nous aujourd'hui.
Bonjour Jérôme, merci à vous.
Eh bien, je vous en prie. Et peut-être qu'il faut commencer par là, me dire c'est quoi votre projet et dire à nos auditeurs et auditrices c'est quoi ce projet de Beyond the Capes.
Bah, alors déjà, incroyable le résumé que vous avez fait, c'est excellent. Et mon projet Beyond the Capes, par-delà les capes, c'est l'itinéraire le terrestre le plus long du monde, ouais. Entre deux points, donc entre le Cap des Aiguilles qui est le cap sud d'Afrique, ouais. Au Cap Horn, le cap plus au sud d'Amérique, en passant par le détroit de Bering.
Donc tout au nord, hein, pour les auditeurs auditrices qui comprennent, le Cap des Bering c'est tout au nord, hein, c'est l'arc, le cercle polaire.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est ouais. Entre la Russie et l'Alaska.
Ouais.
Et donc, j'ai décidé de faire cette expédition sans moteur et en adaptant mon moyen de locomotion à l'environnement. Donc, j'ai découpé cet itinéraire de 50 000 km en plusieurs tronçons, et notamment l'Afrique à vélo. Après, pour des raisons, on va dire, techniques, politiques et risquées, j'ai traversé le Bab el Mandab, c'est le couloir des lamentations, on appelle ça, qui est entre Djibouti et le Yémen,
ouais.
En kayak.
Ouais.
Et il faut savoir que mon itinéraire, c'est l'itinéraire le plus direct. Donc je me rapproche du fil au plus près. C'est-à-dire que je ne m'éloigne pas de mon itinéraire de base, qui est le plus direct entre ces deux points. Et donc ça me fait passer par des endroits complètement improbables, parfois, comme traverser le désert du Rub al Khali, le désert le plus long du monde, à pied, accompagné de mon dromadaire en Arabie Saoudite. Ou encore récemment le désert de Gobi dans sa partie chinoise.
Et c'est là, en fait, c'est là que moi j'ai découvert votre projet en glandouillant entre guillemets sur Instagram. Vous revenez là, vous étiez dans le désert de Gobi, hein, c'est ça?
Ouais, voilà. Alors j'ai été pris de court un peu par le temps parce que j'ai perdu 2 mois à Oman pour réparer un bateau, un voilier pour pouvoir traverser le golfe d'Oman.
Ouais.
Et ces 2 mois-là, en fait, c'était les 2 mois qui m'ont amené à l'hiver mongol et du coup. Là-bas, l'hiver en Mongolie, c'est moins 40 jusqu'à moins 50 degrés et il est complètement impossible de voyager à cheval. Donc moi, j'ai rejoint à travers le désert Gobi, j'ai rejoint la Mongolie à travers la Chine.
Ouais.
Et arrivé en Mongolie, j'avais le choix entre rester 3 mois dans une yourte ou revenir. Donc là, très exceptionnellement, je suis revenu en France. Je vais en profiter pour faire des conférences et préparer la suite parce que vous savez, avec la politique, je vais être obligé de traverser la Russie. Donc là, je vais me présenter à l'ambassade de Russie pour voir quel visage peut avoir. Voilà, donc il est préférable pour moi de rentrer, d'être rentré justement ces deux mois-là pour préparer la suite.
Au fait, vous rentrez pour des raisons déjà météorologiques ou climatologiques, oui. Parce que traverser la Mongolie à dos de poney en plein hiver, c'est infaisable, c'est ça ?
Bah, c'est ça, c'est infaisable, parce qu'en fait, en itinérance, les chevaux, ils doivent manger tous les jours parce qu'ils portent, ils
bien
marchent.
Sûr, bien sûr.
Et en l'occurrence, en hiver, là-bas, il y a un mètre de neige sous leurs pieds, donc ils sont obligés de gratter pour découvrir l'herbe. Et donc, c'est impossible de voyager avec des chevaux en hiver ou fou, pour être fou, parce que la Mongolie, il n'y a pas de réseau, c'est le pays le moins dense du monde. Il y a 3 millions d'habitants, dont 1 million à Oulan-Bator. Donc, ouais. En gros, quand on est dans les steppes mongoles, il n'y a plus rien, quoi.
Ouais. Et l'idée, c'est pas de mettre les chevaux en danger non plus.
Ah non. Alors, moi, je suis un très grand amoureux des animaux. Donc, avec moi, ils ressortent plus gros qu'au début de l'aventure. Hein.
Et votre vélo, est-ce qu'il ressort plus gros qu'au début de l'aventure,
oui.
Ou pas?
Alors, ça, c'est mon deuxième vélo. Le vélo, pour sa petite histoire, je l'ai trouvé dans les rues du Jackson Market à Karachi, ouais. Au Pakistan, après avoir rejoint la côte en voilier. Et ce vélo-là, j'avais le désir d'acheter le vélo le moins cher possible, sauf quand je me suis rendu au Jackson Market, et il y avait vraiment une bicyclette locale, mais sans vitesse.
Ouais.
J'ai tout de suite pensé à la chaîne de l'Himalaya, et techniquement, ça m'aurait flingué de remonter l'Himalaya sans plateau.
Ouais.
Pour ceux qui font du vélo, vous savez très bien que c'est nécessaire d'avoir au moins la moulinette pour pouvoir remonter la montagne.
Ouais.
Et là, du coup, j'ai décidé de prendre un vélo un peu plus, on va dire, moins bicyclette, quoi. Mais c'est un vélo d'occasion que j'ai payé 0 euro finalement, parce que quelqu'un, un Pakistanais, me l'a payé à 100 euros.
Ouais.
Avec les bagages, tout ça, ça m'est revenu à 150 euros, tout compris. Et puis ce vélo, je l'ai recousu. Je l'ai réparé.
Recousu, alors pour les auditeurs, auditrices, ça peut sembler un peu spécial, mais en fait, vos pneus, les flancs des pneus sont recousus tous les 5 cm, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ça empêche la chambre à air de sortir.
Ouais.
C'est assez rigolo. Bon, parfois, je me demandais si ça allait continuer longtemps comme ça, mais ils ont tenu. Vraiment par chance, ils ont tenu 6000 kilomètres.
Mais on ne se rend pas bien compte, et en fait l'impression qu'on a malgré tout quand on suit votre périple, notamment sur les réseaux sociaux, sur votre compte Instagram, on a l'impression que ce n'est que de l'improvisation. Vous avez quand même beaucoup, beaucoup préparé en amont ce voyage, fait plus de 10 ans que vous êtes dessus.
Oui, il n'y a pas d'improvisation. En fait, chaque étape est calculée. C'est-à-dire que moi, au moment où je suis arrivé au Pakistan, je savais qu'il me fallait une bicyclette.
Ouais.
Et je voulais prouver en traversant le Pakistan avec une bicyclette pas chère, qu'on peut vraiment voyager avec 20 balles. Et je l'ai plus ou moins prouvé. On m'a payé le vélo, donc voilà. Mais je veux dire, sinon, j'aurais acheté une autre bicyclette.
Ouais.
Et puis, on peut voyager avec rien. J'avais un vélo quand même bien plus technique en Afrique. J'ai quand même traversé le Bab el-Mandab avec un kayak qui est un kayak professionnel. Voilà, j'essaie de penser à toutes les solutions en amont quand même. Même si l'aventure, en fait... Tous les jours, il faut rebondir sur des nouveaux incidents.
Mon édito, il est sur le cap ou pas cap. On se rend compte aussi, on a l'impression, en tout cas, quand on vous suit, quand on voit que vous êtes dans le désert, là, vous étiez dans le désert de Gobi avec des températures extrêmement froides. À aucun moment, vous avez la sensation de vous mettre en danger?
Alors, il y a quelque chose qui est impressionnant avec le froid et le vélo, c'est qu'on sue. Et il faut gérer ses couches, mais on peut presque pas s'empêcher de suer, à moins vraiment de ralentir. Mais si on ralentit, on a froid. Et donc, on est vraiment le cul entre deux chaises, entre avoir froid et suer. Et le problème, c'est qu'en fin de soirée, la sueur, lorsqu'on s'arrête, si on n'est pas actif, et moi, normalement, je suis toujours actif, je monte ma tente, mon bivouac, tout ça, eh bien, la sueur se met à geler. Mais vraiment, techniquement, ça fait une couche de glace sur le dos, sur le torse, sur la tête. Et tout se met à geler, on est enrobé d'une couche de glace, et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une hypothermie fulgurante, c'est-à-dire qu'en quelques minutes, nos mains se transforment en bâtons, et il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc, ça m'est arrivé déjà deux fois à cause de la police, parce que quand je voulais monter mon bivouac, eh bien, c'est pas qu'ils m'empêchaient, c'est que pour eux, ils analysaient tout, ils regardaient les cartes à ce moment-là, ils me disaient « on va appeler notre chef ». Et moi, je leur dis non, c'est maintenant que je monte ma tente, sinon je suis mort dans 10 minutes, je suis en hypothermie.
Ouais.
Et donc, je me prenais un peu la tête avec eux le soir, mais bon, à chaque fois, ils m'amenaient à un autre endroit. Et quand j'avais pas la police, je pouvais monter mon bivouac directement. Et donc, pour répondre à la question, c'est dans ce genre de moment où je me sens un peu en danger quand je suis entre les mains des autres. Voilà.
Ouais. Parce que, quand vous maîtrisez plus votre timing.
Exact. quand c'est plus moi qui gère mon futur, en gros, là, je me sens un petit peu en danger.
Est-ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, c'est des petites vidéos qui sont plutôt bien montées, qui sont plutôt, plutôt très entraînantes. Votre quotidien, il ressemble à quoi ?
Le quotidien, en fait, le problème, c'est les montages vidéo. Donc, le soir, dans le duvet, je fais du montage vidéo. Le matin, avant de partir, j'en fais aussi. J'essaye de trouver des moments où je peux faire un peu de montage vidéo, parce que c'est vraiment très long.
Ouais.
J'avais un petit peu de retard que j'ai pris à partir de l'Himalaya. Avant, j'avais pas de retard. J'avais exprès 3 jours de décalage pour faire un peu tampon.
Ouais.
Mais plus les vidéos se sont étoffées, plus ça m'a demandé du temps. Des fois, c'est peut-être 3 heures par jour de montage.
Ouais.
Parce que c'est compliqué, parce que j'ai aussi les montages de Patreon pour essayer de gagner de l'argent. Ça me rapporte 90 euros par mois. Alors, c'est pas dingue, mais au moins, c'est ce qui me permet de survivre.
Ouais. C'est vos sources de revenus, c'est Patreon et c'est tout ?
Les dons, j'ai eu des dons. J'ai eu 2 dons une fois de 500 euros, ce qui m'a vraiment poussé longtemps. J'ai eu plusieurs dons de 40 euros grâce aux gens sur Internet, quoi. Insta ou Facebook, y a des gens qui me font des dons. Et des achats de cartes postales aussi. Des fois, comme je me suis dit, à 15 euros une carte postale, moi, ça me permet d'en garder au max 10. Et puis comme ça, j'envoie une carte postale aux gens. Et
donc c'est un service que vous proposez où que vous êtes dans le monde. Oui. Vous dites, si vous voulez recevoir une carte postale de ma part, financez-la à 15 euros ou 16 euros, peu importe. Ça vous permet de payer le timbre et la carte postale et d'avoir un peu de marge pour remplir la gamelle de demain, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis en même temps, étrangement, ça crée un petit lien avec les gens.
Ouais.
On se raconte un petit mot. Après, ils m'envoient généralement une photo de la carte postale. Après, on discute. Moi, je trouve ça assez sympa. Et je me dis que 15 balles, pour moi, ça m'en fait 10. Et du coup, ça me permet de bien continuer mon aventure aussi. Donc voilà.
C'est ce que je lisais sur votre site internet, parce que évidemment que j'ai quand même un peu travaillé en amont, mais c'est ce que je lisais. Vous êtes un ancien militaire des forces spéciales, c'est ça ?
Oui, alors j'ai travaillé en tant que mécanicien hélicoptère dans les forces spéciales et j'ai eu vraiment la chance de faire plusieurs formations, notamment moniteur secouriste, moniteur commando, où on apprend vraiment des techniques de survie, de démerde en gros.
Ouais.
Et puis, je suis un touche-à-tout. Hein. Moi, avant l'armée, j'étais au Beaux-Arts. L'armée, c'est une école. Hein.
Ouais.
Ça nous donne des clés vraiment pour pas être frileux de la vie en gros. Hein.
Ouais.
Et je remercie l'armée pour ça, parce que c'est vraiment l'école de la vie. Hein.
Et aujourd'hui, Yann, je dirais l'intention sur ce voyage, c'est quoi ? Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit la performance, je n'ai pas l'impression que ce soit l'exploit ni le record, j'ai l'impression que c'est de traverser le monde et de le raconter et de le témoigner. C'est ça ou pas ?
Ouais, alors c'est très très bien souligné, parce qu'en fait, au début, j'étais vraiment parti dans un terme de challenge. Voilà,
ouais.
Challenge... presque pas un record, mais voilà, j'avais que ça en tête, et puis ça m'a mis en porte-à-faux avec moi-même, c'est-à-dire que les mois ont passé et je me suis retrouvé à plus savoir ce que je voulais de la vie, dans la difficulté, parce que je rencontrais des difficultés hein, avec mon dos cassé, avec mon genou, tout ça, puis au bout d'un moment, la vie elle m'a montré d'autres choses, et j'ai appris à rencontrer les tribus, c'était mon rêve, et je réalisais mon rêve sans le savoir, et puis petit à petit, je me suis dit, mais en fait, t'es à la meilleure place pour vivre ta vie. Et j'ai changé, et au fur et à mesure, je me suis dit que les gens devaient vraiment savoir par où je passais pour rencontrer, pour voir vraiment la bonté du monde, et j'avais cette envie de partager, et alors là, ça m'a donné l'opportunité de partager, et puis quand j'ai vu les commentaires sur les réseaux, et l'amour que les gens ont vraiment pour le voyage, et cette bienveillance, du coup, ça m'a mis dans un autre personnage que maintenant j'aime et j'adore, c'est moi.
Ouais.
En fait, je me suis découvert, et puis maintenant, j'ai ce devoir, on va dire, de raconter le périple, d'aller jusqu'au bout, mais je garde toujours ce côté challenge au fond de moi, puisque c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Par exemple, quand je suis dans difficulté physiquement, j'ai des petites techniques comme compter des secondes, mais il y a cette rage qui fait que je veux aller au bout d'une étape. Quoi.
Alors, on va en parler en deuxième partie d'émission, hein, auditeurs, auditrices. Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune 93.fm. On est en ligne avec Yann Bunel qui revient tout juste du désert de Gobi, qui fait une pause pour repartir ensuite traverser le désert de Mongolie. Et ça, il va pas le faire à vélo, mais il va le faire à cheval. On va s'écouter Little Smith de Gorilla et on retrouve Yann tout de suite après pour évoquer justement son itinérance, son avis et son voyage. À tout de suite.
Sous Sim Simmer, who got the keys to my blood clot? Bimmer, big time driller, monkey to gorilla. Who is this woman that I'm seeing in the mirror? Drink 42 and smoke cigar. Name one time where I didn't deliver. Silent figure, I was just on the ends dropping gems with my friends. I got a 3310 and a pack of blems. Then got the gold full black, circle back again. Rapping when nothing progressive was happening. Ooh, pain tolerance couldn't break us. Pay homage if you respect how we came up. Cool, cool. Trying to get to the paper, hitting from Jamaica, might do me a favor. True, big simmer, dipping 10 toes in the ice cold river. Bank got bigger, been a different species. Tunes in a locker, been waiting to unleash these. It's a no show if you can't guarantee fees. I ain't got one threat to consider. Heaven and earth attached to one pillar. One. Rest in peace to Mac Miller. New Sims dropped to shake the whole shit up. What's next? We'll be here for months talking about prospects. Staying on my job, yes sir. When rain is against her, I'm river resistant on my polyester. Run through the jungle, they should have never let her. Cuts and wounds, I hope never will fester. Yeah, big art collector, silent investor, film director. Beating on my chest, going ape shit, putting in a grave shit. Ain't life what you make it, yeah it is. Cutting through the jungle in an all black fitted hat low, incognito living. Introvert but she ain't timid. My art will be timeless, I don't do limits. Be very specific when you talk on who the best is. How can I address this? Basically the rest is almost like to me what a stain to a vest is. You ain't dropped nothing in my eyes I'm impressed with. Please don't be offended, but I'm not in the business of pretending. I've got lines if you wanna get renting. I'll find the agony on and get venting. Stop flooding my mentions with bullshit. Talking on Sims like she's someone you went school with. Awkward. From day you've been the cool kid. Raps lost hope and faith I'm restoring. Don't ask my opinion on shit, cause to make you feel good about yourself is exhausting. I got bangers out in the world soaring, and I got bangers in a vault I've been hoarding. Yeah, true, I got tennis in the morning before I start swinging.
Nous voilà de retour, toujours sur Rayon Libre. Une pause dans le voyage de Yann Bunel. Deuxième partie de Rayon Libre sur Cause Commune 93.1 FM. Yann, en fait, en première partie de l'émission, je vous demande si vous avez peur, si vous vous sentez parfois en danger, alors que je devrais plutôt vous demander les rencontres, les petits bonheurs, les jolies rencontres. Il y en a plein, j'imagine, non?
Oui, bah, y en a énormément, et si je dois en souligner quelques-unes, je les appelle les humains du bout du monde,
ouais.
Parce que c'est toujours ceux, dans les endroits les plus improbables, on s'y attend jamais, et il y a toujours quelqu'un, et ça m'a vraiment m'est choqué, il y a toujours quelqu'un qui habite dans un endroit très reculé, tout seul, et qui a une histoire de dingue à raconter. Je pourrais parler de Botumelo au Botswana, qui est un vieux monsieur qui habite dans le bush africain, tout seul avec ses animaux, ou Abdallah, c'est un Somali, la tribu Somali,
ouais.
Qui habite en Arabie Saoudite, au fond d'une montagne, juste avant le désert, vraiment tout seul.
Ouais.
Et il habite dans une ferme, et ce mec-là, il m'a vraiment sauvé l'expédition, parce qu'il m'a montré le chemin à travers la montagne pour traverser avec Raoul, mon dromadaire,
ouais.
Chose que j'aurais déjà impossible de découvrir ce chemin tout seul.
Donc, il vous a accompagné ou il vous a montré sur une carte le chemin ?
Non, mais alors déjà, le soir, il m'a invité chez lui, dans sa petite fermette, là,
ouais.
On a mangé ensemble. Il était hyper heureux, il m'a fait trop rigoler. Et le lendemain, en fait, il m'a accompagné pour me montrer le chemin sur toute la journée. Et le chemin, il a fallu qu'on mette des pierres en place pour pouvoir faire passer le dromadaire. On a mis des pierres sous ses pattes,
ouais.
On a tenu ses pattes, on l'a fait monter comme ça sur une montagne et descendre de l'autre côté pour atteindre le désert, mais sans ça, c'était impossible. C'est impossible de trouver.
Voilà, ouais, donc c'est des jolies rencontres, et c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être perdu au milieu de nulle part dans le désert, et de nulle part surgit quelqu'un qui vient, et qui vous accueille, qui vous dit « mais tu vas pas dormir dehors, viens dormir chez moi », c'est ça ?
Oui, c'est ça, et alors faut savoir que ces gens-là, ils sont dans des endroits où déjà, je me suis dit « bon, à partir de là, il n'y a plus d'humains,
ouais.
Je marche une journée, et paf, il y a quelqu'un qui apparaît ». Et donc, ils marquent vraiment ma vie parce que c'est des gens qui ont tellement à donner en histoire et en temps que finalement, je regrette même de partir dans la foulée. Bon, généralement, je reste une journée avec eux quand même pour les courir.
Ouais.
Bah, lui, c'est simple. Hein. Il était en tenue blanche dans le sable, mais dans les montagnes. Et de loin, il me voit, il sourit. Il sourit tellement que je rigole. J'arrive vers lui Il me dit, ah, il me dit d'où je viens. Bon, je lui dis en arabe, je suis français. Et il me dit, ah, Jacques Chirac, il me dit. Et je lui dis, non, non, c'est fini, Jacques Chirac. Et là, il me dit, ah, Macron, Macron. Et j'ai dit, oui, oui.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est français, mine de rien, ça ouvre des portes, ou en tout cas, ça, je dirais, c'est le fait de venir de France, ça pose quelque chose, ça rassure.
Ouais, mais pour ceux qui en doutent encore, il faut oublier, la France, elle est bien vue absolument partout. Je suis arrivé au Pakistan, on m'a dit de cacher mon drapeau français. Ouais. À partir du moment où on m'a demandé je viens d'où, je disais Bretagne, c'est ma petite clé pour ne pas mentir. Et puis,
pas insister sur le mot français, ouais.
Voilà, et puis on me dit mais c'est en France, je dis oui, et là tout le monde avait un sourire jusqu'aux oreilles. Français, pour eux, c'est le romantisme, c'est la classe, c'est la passion. Et du coup, partout où je vais dans le monde, à part un petit peu en Éthiopie avec certaines tribus, à part bien sûr, je pense, dans des régions vraiment chaudes, un peu anti-français on va dire, mais là, honnêtement, partout où je vais, les gens sont passionnés, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas indifférent. Le français, il laisse pas indifférent, c'est pas comme si il disait ah c'est cool. Non, non, ils veulent vraiment en connaître davantage. Tout le monde, même les Chinois. Les Chinois, ils adorent les Français, quoi.
Et alors, ce qui est intéressant aussi, là, en tout cas, ce qu'on voit quand vous êtes, je pense, dans Desert Gobi, en tout cas, dans le territoire ouïghour, vous êtes suivi en permanence par les flics qui sont pas loin, qui au fait, une sorte de surveillance permanente, c'est ça?
Alors, à prendre avec des pincettes, il y a vraiment deux façons d'être suivi. Au Pakistan, on appelle ça le drama, c'est-à-dire qu'ils pensent que il pourrait nous arriver quelque chose, et dans l'idée où il pourrait nous arriver quelque chose, ils nous suivent. Mais du coup, ça nous met presque dans l'énervement constant, parce qu'ils dorment avec moi. Donc, à un moment donné, tout le monde pète un plomb. Il n'y en a pas un seul voyageur à vélo qui n'a pas pété un plomb, ou alors il n'est pas allé dans le Punjab ou dans le Sindh, ce n'est pas possible. Ouais. Et en arrivant en Chine, moi, on m'avait dit que c'était tranquille, mais oui, toute la Chine, c'est tranquille, sauf le Xinjiang, où là, c'est la province des Ouïghours, où là, on a des polices qui nous suivent. Alors, des fois, c'est des agents secrets. C'est facile à reconnaître vu qu'ils répondent toujours non à est-ce que vous êtes policier. Ils disent non, donc voilà. Ouais. Et eux, ils nous suivent pour pas qu'on aille fouiner là où certains internautes, des gens qui veulent faire le buzz. Là, et il y en a qui ont été là-bas et qui ont été critiquer la Chine. Et puis ça se fait pas. C'est un pays qui se gère très bien tout seul et qui a pas besoin d'être critiqué. Ils nous critiquent pas d'ailleurs. Je suis pas là. Je suis pas payé. Hein. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Ouais. Et donc, je comprends qu'il m'ait suivi à un moment donné, même si ça énerve, je comprends. Et après, il y a une deuxième façon pour qu'ils nous suivent. C'est-à-dire que dans des endroits, il y a des endroits tellement dangereux, on va dire, avec le froid, que eux, ils sont inquiétés. Bah, pour moi, je m'inquiète pas. Je sais où je vais. J'ai mon équipement, tout ça. Mais eux, ils n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un se balader dehors à moins 35 degrés. Donc, clairement, ils m'ont suivi pour ma sécurité. Ça, j'en ai bien conscience.
Ouais.
Et j'ai vu la différence. Même si des fois, j'ai eu le doute qu'ils me prennent pour un agent secret, j'ai vite compris que non. En fait.
Comment vous arrivez sur votre vélo ou avec votre dromadaire ou bientôt votre cheval à savoir ce que je dirais à ressentir ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez faire, et où vous pouvez aller, et là où il faut pas aller, là où il faut pas, les limites à ne pas franchir.
Déjà moi je suis complètement naturel et je respecte les gens, et c'est quelque chose où il y a pas vraiment, on va dire, moi je respecte les policiers s'ils viennent m'engueuler, me dire non, moi je leur dirais ok, mais si je vois que c'est du zèle ou je vois que c'est du n'importe quoi, et puis faut pas se laisser non plus marcher dessus, c'est-à-dire que on est un être humain, moi je suis un être humain, et donc j'ai besoin de faire ma mission, de faire mon objectif de d'aventure, et puis ils le comprennent. En fait, c'est des gens intelligents, ils le comprennent, même au Pakistan, ils le comprennent, les policiers, et ils sont généralement tous en notre faveur, ils sont pas là pour être méchants avec nous, ils sont là pour remplir leur mission, qui est de nous protéger. Ouais. Et donc, à un moment donné, on est un peu leur bébé. On est leur mission, donc il faut savoir que moi, quand je me sens mal, je leur dis. Et puis, ils sont tous gentils, ils font « ok, bon, je dis prenez des distances, ok ».
Donc, ils comprennent. Au fait, il faut leur parler comme à des gens normaux, et ils comprennent, c'est intéressant.
Oui, parce que moi déjà, j'ai toujours respecté les gens. Il n'y a pas moi, j'ai pas aucune barrière avec religion, couleur, origine, tout ça, il n'y a pas de ça. Et du coup, je suis 100% naturel avec les gens, que dans n'importe quel pays, que ce soit avec une tribu ou avec un diplomate. Et c'est vrai que des fois, je mets pas les formes dans ma façon de parler parce que je suis très familier. Et du coup, les gens ont soit un lien avec moi, soit des fois, c'est vrai que j'ai rencontré des blocages aussi. je rencontre des têtes brûlées aussi. Hein, donc,
ouais, bien sûr. C'est le moment d'écouter Abel Guggenheim, parce qu'il doit être à peu près 14h25. On va écouter Abel Guggenheim. On est toujours avec Yann Bunel. C'est le moment donc d'Abel. Toutes les semaines, en 3 minutes, il nous fait lui aussi partir, voyager, rencontrer du monde. Abel, c'est à toi.
Bonjour. La période n'est pas joyeuse. Je ne parle pas de la guerre à haute intensité, comme on dit sur les chaînes d'infos qui vient de commencer. Je n'ai pas de compétences particulières pour la commenter. Je n'en ai pas non plus pour le mauvais temps et n'en parlerai donc pas plus. Non, ce qui m'inquiète, c'est une certaine communautarisation des comportements et des opinions, comme si chacune et chacun ne pouvait s'occuper que de ses intérêts propres, ne pouvait que s'opposer à celles et ceux qui sont dans d'autres situations et aux d'autres intérêts. Bien sûr, la période électorale est par nature plus propice aux contradictions qu'aux convergences. Elle conduit à prendre parfois des positions plus fermées que nécessaires, et même à tordre parfois un peu la stricte vérité dans le sens qui arrange. Mais certaines personnes font plus que prendre des liberté avec les vérités et mentent effrontément. La championne absolue en ce domaine est assurément Rachida Dati. Lorsqu'elle est face à un journaliste spécialisé pro de chez pro, Bertrand Lambert, qui travaille ses sujets même quand il les connaît par cœur, elle se permet les plus énormes mensonges en allant jusqu'à lui faire la leçon, comme face à un gamin. Je vous dis les chiffres tels qu'ils sont aujourd'hui. Si vous travaillez bien votre dossier, monsieur le journaliste. C'est malheureusement parfois aussi le cas dans le monde associatif, comme ces représentants d'associations cyclistes qui refusent de reconsidérer leur projet de doublement de la piste cyclable des boulevards de Sébastopol et de Strasbourg et de prendre en compte la proposition de l'association francilienne des usagers des transports de dédoublement plutôt que de doublement de cette piste. Proposition pourtant avantageuse à la fois pour les usagères des usagers des bus et pour les cyclistes. Mais c'est aussi à l'inverse le président de la Fédération nationale de ces associations d'usagers qui essaye de monter les usagers des transports contre les cyclistes en présentant inexactement deux aménagements récents. Rue Fontaine, un contresens cyclable a été créé dans le sens descendant, non pas au détriment du bus 74, mais au détriment des cyclistes dans le sens montant, qui bénéficiaient auparavant d'une bande et se retrouvent obligés à circuler dans le couloir bus. Un autre aménagement sur le pont Caulaincourt, avantageux pour les bus et les vélos, est également faussement présenté comme posant des problèmes de circulation aux autobus. C'est aussi l'association 60 millions de piétons qui dépense l'essentiel de son énergie à s'opposer aux cyclistes, fustigeant les quelques modifications réglementaires faites en leur faveur plutôt qu'en en proposer en faveur des piétons. Mais ce sont aussi les simples piétons qui trouvent tout à fait normal de traverser alors que la figurine piéton est rouge et qu'aucune voiture n'est visible et engueulent, oralement comme par écrit, les cyclistes qui se permettent juste de faire exactement la même chose dans les mêmes conditions. Il ne me reste plus de temps pour parler des automobilistes dont le comportement et l'expression laissent tout autant à désirer. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine chronique. À lundi prochain.
Merci beaucoup Abel. Yann, juste pour bien comprendre, là aujourd'hui, donc on est fin février, vous êtes en France. Vous en êtes où de votre périple? Vous êtes quoi à parcourir?
J'ai fait 20 000 km sur les 50 000 km et puis il me reste au moins 2 ans.
Ouais.
C'est une timeline que j'essaie de respecter, mais bon, tant pis si ça dépasse. Et là, je reste pendant la saison hivernale en France. J'espère partir au grand plus tard mi-mai. Je me donne jusqu'à fin mai, et puis après, je repars pour revenir à la fin. Quoi.
Et donc là, vous allez partir traverser la Mongolie avec un poney. Ouais. Vous êtes cavalier en plus d'être cycliste?
Alors, un tout petit peu, mais c'est pas grave. Moi, je découvre aussi en cours de route et ça me va très bien.
Vous étiez cycliste, vous saviez réparer un vélo, par exemple, avant de partir?
Ah non, mais si vous partez là-dessus, là, je peux vous dire que vous allez halluciner. Je suis parti, j'avais même pas essayé le vélo en Afrique d'abord.
Ouais.
Je m'étais entraîné sur d'autres choses, quoi, parce que pour moi, le vélo, ça allait couler de source. Et donc, déjà, dès les premiers jours, j'étais un peu... on va dire, en train de découvrir tout l'environnement du vélo, mais ça allait très vite. Je suis très démerdard.
Ouais.
Je suis bricoleur, et puis je m'intéresse donc.
Cap ou pas cap, ben vous êtes cap, et puis vous verrez bien à la fin où ça vous mène et comment vous vous en sortez.
Oui, vous savez, pour marcher avec un dromadaire, c'est pas simple. Il a fallu que je réunisse du monde, que ce soit une vétérinaire, une éducatrice de dromadaire ou une aventurière. J'ai créé un groupe WhatsApp, ils m'ont aidé tous les jours. Et pendant une quinzaine de jours, je me suis auto-formé en Arabie Saoudite. Et c'est pas facile. Hein. Quand l'animal fait 700 kilos, je peux vous dire qu'il peut vous envoyer valdinguer en 2 secondes. Donc
il faut apprendre à faire copain-copain avec le drone à l'air.
Ah ouais, faut se mettre dans la peau d'un chamelier direct. Ouais. Et puis alors là, c'est parti.
Et puis ben là, vous allez vous mettre dans la peau d'un palefrenier et faire copain-copain avec vos chevaux.
Exactement, c'est ça.
Et ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et évidemment, auditeurs, auditrices, je vous invite à suivre Yann sur Instagram Beyond the Capes. Et puis, si vous voulez qu'il vous envoie une carte postale de là où il est dans le monde, ça vous coûtera 15 euros. Il vous enverra un petit mot de là où il est. Et puis, vous créerez un lien. Et puis, ça lui permettra d'avoir 10 ou 12 euros de marge pour pouvoir remplir sa gamelle le lendemain. Merci beaucoup. Merci Yann d'être venu au micro de Rayon Libre aujourd'hui. Restez sur 93.fm, cause commune, il est 14h30, je vous dis à la semaine prochaine. Et auditeurs, auditrices, n'oubliez pas, le vélo est une chance, le dromadaire aussi, le cheval aussi. Ce serait dommage de ne pas les enfourcher et de ne pas les partager. À la semaine prochaine. Merci Yann.
Merci à vous.